Bon matin à tous. En cette belle journée, une autre journée de grâce que le Seigneur met devant nous, n'est-ce pas? On vient de chanter « Je suis né pour te louer ». Est-ce qu'on croit vraiment ça? Hein? Est-ce que, à chaque jour, évidemment, la réponse c'est non. Mais à chaque jour, on prend, je dis évidemment, je parle pour moi, est-ce qu'à chaque jour, on prend du temps? Du temps de qualité pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il est. C'est quelque chose qu'on devrait faire. C'est quelque chose qu'on devrait faire parce que Dieu est grand et comme on l'a chanté aussi, il nous a tant aimés, il nous a tout donné. À Dieu soit la gloire. Amen. Alors ce matin, on continue notre étude sur le thème « À la recherche de la volonté de Dieu ». On a débuté ça il y a quelques semaines, on termine ce matin. Et jusqu'à présent, nous avons vu que la volonté de Dieu pour nous, c'est premièrement que l'on vive pour sa gloire. On a été créé pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, on a vu que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit sauvé. Parce que le salut, c'est le point de départ dans la recherche de la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a aucune raison de nous révéler quoi que ce soit concernant sa volonté pour nous si on n'est pas sauvé. La seule chose que Dieu nous révèle, si on n'y appartient pas, c'est qu'on va passer l'éternité loin de lui, en enfer. Donc, la volonté de Dieu veut que nous soyons sauvés. Dieu veut aussi que nous soyons remplis de l'Esprit. Et on a vu la semaine passée que ça n'avait rien de mystique. Et on a vu aussi ce que ça voulait dire et ce que ça ne voulait pas dire. Donc, on doit laisser le Saint-Esprit prendre toute la place en nous et le laisser nous diriger, nous guider dans notre marche de tous les jours. Et ce matin, on continue avec le prochain point où Dieu nous appelle à la sanctification. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens 4. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. On va lire les versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors, ce passage débute et se termine par un appel à la sanctification. Et l'apôtre Pierre va dans le même sens aussi. En 1 Pierre 1, 14 à 16, on peut lire, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais... puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Prions. Seigneur Jésus, bénis ta parole dans nos cœurs ce matin, dans nos âmes, dans nos consciences, afin qu'on reçoive le message que toi tu as pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur, tu as peut-être besoin de nous reprendre, de nous encourager, de nous fortifier, de nous consoler, peu importe ce que c'est, Seigneur. Fais que l'on reçoive ta parole comme venant de toi, Seigneur Jésus, et que l'on puisse te rendre gloire pour ça. Et Seigneur, aide-moi à bien communiquer le message que tu as mis sur mon cœur, que je ne sois que ton messager ce matin. Seigneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, Dieu nous appelle à la sanctification. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint? La première image qu'on a, c'est quoi? C'est, il me semble que je me vois là, sur une belle toile par un peintre, là, Saint Tony, comme ça, avec une auréole de sainteté. Pourquoi vous riez? Non, mais c'est pas ça, la sainteté. Ça, c'est une image artistique de la chose. Mais est-ce que être saint, ça veut dire de mener une vie absolument parfaite et sans péché? Alors là, je vous dis tout de suite, je suis disqualifié. Levez la main qui ne l'est pas. OK. Donc, être saint, ça ne veut pas dire d'être parfait et d'être sans péché, parce que Nous sommes des pécheurs, même si on est racheté par la grâce de Dieu. Nous demeurons encore des pécheurs, mais des pécheurs rachetés. La nuance est importante ici. Alors, on ne peut pas mener une vie parfaite même en étant chrétien. Quelqu'un m'avait dit il y a quelques années, une fois, il dit, moi là, il dit, ça fait 20 ans que je suis chrétien, alors ça fait 20 ans que je n'ai pas commis aucun péché. Je lui ai répondu, ben tu viens de le faire. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est quand même puissant ce qui est écrit ici là. Parce que avant de dire qu'on ne pêche plus, pensons-y, parce que si on se fie à ce qui est écrit là, si je dis que je ne commets plus de péché, c'est que je ne suis même pas chrétien. Relisons le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est point en nous. Alors, même en étant chrétien, on ne peut pas dire qu'on ne pêche plus, ça ne fait pas de sens. En revanche, nous dit le en plus de ça, de dire que nous ne pêchons plus, c'est même un blasphème. Regardez le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Alors, si je dis que parce que je suis chrétien, je ne pêche plus, ben la vérité n'est pas en moi, donc je ne suis pas vraiment né de nouveau, parce que je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est que le péché. Et deuxièmement, ben, je fais Dieu menteur, parce que Dieu, lui, affirme qu'on est des pécheurs. En revanche, vous savez, le Seigneur est toujours gracieux en toutes choses. Regardez le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hein? Alors, oui, on est pécheur, mais la condamnation du péché, il ne faut pas rester avec. Le Seigneur nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, même si en étant chrétien, je pêche encore, eh bien, la parole de Dieu me dit que je peux confesser mes péchés. C'est pas merveilleux, ça? Et si je dois les confesser, eh bien, c'est parce qu'ils sont bien réels. L'affaire que c'est qu'en tant que chrétien, le péché, c'est pas une question de salut. Notre salut, c'est réglé, était définitivement réglé à la croix. Mais c'est une question de communion brisée avec le Seigneur. Comme Ésaïe 59, 2 nous le dit, l'Éternel parlait aux enfants d'Israël, il dit, « Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face, qui m'empêchent de vous écouter. » Et c'est la même chose pour nous. Le péché ne nous enlève pas notre salut, on ne peut pas perdre notre salut, c'est impossible. Mais le péché brise la communion qu'on a avec Dieu. Alors, on doit le confesser. Et Seigneur nous le pardonne. Alors, affirmer qu'on ne pêche plus, c'est démontrer qu'on n'est même pas sauvé parce que ça révèle qu'en réalité, on n'a même pas compris la réalité et la nature du péché. Ça démontre que, dans le fond, je n'ai pas vraiment besoin d'un sauveur. Et si je dis oui, mais Jésus m'a sauvé, OK, mais tu n'as pas compris que tu as aussi besoin d'un Seigneur, donc qui va être le maître de ta vie, qui va te diriger. Réaliser la nature du péché, c'est aussi comprendre l'importance que Dieu veut qu'on ait une sanctification continue dans nos vies. Alors, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Hey, Dieu veut qu'on soit des saints. Vous réagissez pas? Dieu veut qu'on soit des saints! Wow! Saint Jean, Saint Pierre, Saint Michel, oh, peut-être pas, mais... Non, c'est une blague. Moi, j'ai grandi dans l'Église catholique romaine et on m'avait appris que c'est le pape qui déclare qui est saint. Et il le fait après la mort de cette personne et selon des critères bien précis. Et j'ai vu sur Internet que les critères, c'était premièrement, il faut être mort. Deuxièmement, il faut avoir mené une vie exemplaire. Puis troisièmement, il faut avoir accompli des miracles. Quatrièmement, il faut être décédé depuis au moins 5 ans. Alors moi, j'étais fort bâle parce que j'aspirais à la sainteté, mais ces critères-là ont vu que clairement, ce n'était pas pour moi. Avant de comprendre le salut, je croyais que la sainteté n'était accessible qu'à une élite religieuse dont je ne ferais pas partie, ça c'est sûr. Mais en réalité, aucun être humain a le pouvoir de déclarer saint qui que ce soit, parce que c'est Dieu qui sanctifie. Être saint, ça veut pas dire être plus beau que les autres, être meilleur que les autres, puis c'est pas ça. Et évidemment, la sainteté doit nous amener à être de plus en plus à l'image de Christ, et c'est ça le but. Mais la sainteté, dans sa définition, ça veut dire être purifié, être mis à part pour Dieu, être consacré au Seigneur. Être saint, c'est d'abord être un enfant de Dieu, et c'est par Jésus, en recevant le pardon de nos péchés, qu'on le devient saint. Regardez comment l'apôtre Paul débute la première épître aux Corinthiens. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et dans le Nouveau Testament, à beaucoup d'endroits, les chrétiens sont appelés des saints. Alors, être saint, ce n'est pas faire partie d'une élite religieuse. Être saint, c'est appartenir à Jésus-Christ, parce que nos péchés ont été pardonnés en lui. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est qu'il a pris sur lui nos péchés. Quand on va à lui avec repentance, sincérité de cœur, et qu'on dit « Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi, que tu as porté mes péchés à la croix pour détourner sur toi la colère de Dieu. Si je vais à lui avec repentance et que je confesse ça, alors le Seigneur prend mes péchés et en retour, il me couvre de sa sainteté. » Ça ne veut pas dire que je deviens immédiatement meilleur puis que je suis parvenu dans la vie. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que parce que je suis dans Jésus-Christ, Dieu me voit maintenant à travers son Fils. Donc, parfaitement saint. Sans péché. Le péché offense la sainteté de Dieu. Et Dieu ne veut pas passer l'éternité avec des pécheurs. Dieu veut passer l'éternité avec des saints. Avec des pécheurs rachetés en Jésus-Christ, à la croix. Si tu n'as pas été déclaré saint et juste devant Dieu ce matin, tu peux l'être. Tu peux sortir d'ici justifié. Tu pourras sortir d'ici puis dire à ta femme, à ton mari, à tes enfants, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, « Hey, sais-tu quoi, je suis allé à l'église puis depuis ce temps-là, je suis un saint. » Hein? Ça commence bien une journée, ça? Veux-tu être déclaré saint et juste devant Dieu? Si c'est le cas, alors... tu es quelqu'un de béni parce que c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu sois déclaré saint. Et ça n'arrivera pas par un décret religieux, mais par le pardon de tes péchés. Et c'est au pied de la croix que ça se passe. Viens à Jésus, confesse-lui que tu crois en lui et demande-lui de te sauver. La parole de Dieu nous dit que tous, juifs et grecs, ici juifs et grecs ne fait pas évidemment référence à la nationalité précise, mais que ça englobe tout le monde, là. Tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ouf, c'est pesant, ça, hein? Mais on en fait partie. À la base, on en fait tous partie. Alors, c'est pas parce qu'un personnage religieux va décider que quelqu'un est saint qui va le devenir aux yeux de Dieu. Parce que le portrait qu'on a devant Dieu, il n'est pas très, très reluisant ici, là. Mais Jésus change cet état de fait. Jésus prend nos péchés et nous donne en retour sa sainteté. Mais il faut lui demander, il faut être repentant. Est-ce que tous et chacun ce matin, vous avez fait ce pas de foi d'aller à la croix? D'obéir à ce que Dieu veut pour vous, à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, d'aller à la croix et lui demander pardon pour vos péchés, C'est la volonté de Dieu pour toi. Si tu ne l'as pas fait ce matin, fais-le. Ne tarde pas. Figure-toi, en sortant d'ici, puis aller chez vous, puis dire à quelqu'un, à tes proches, « Hey, je suis un saint maintenant. » Peut-être d'une façon humoristique, mais la réalité est quand même là. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons saints, premièrement. Et là, il faut comprendre que la sainteté comporte deux aspects. La position et la condition. Alors, la position, c'est d'être en Jésus-Christ. Je vais expliquer la différence entre les deux dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais t'inviter, si tu ne l'as pas fait, à t'avancer au pied de la croix. Aller au pied de Jésus. Puis dire, Seigneur, je veux que tu fasses de moi un saint. Pas parce que je veux être considéré meilleur que les autres, mais parce qu'à tes yeux, mes péchés vont avoir été pardonnés. As-tu fait ce pas de foi? Si tu ne l'as pas fait, fais-le ce matin. C'est la décision la plus importante de toute ta vie. Fais-le maintenant. Va à Jésus, puis dis-lui que tu es un pécheur, que tu es une pécheresse. Dis-lui que tu crois qu'il est mort et ressuscité pour te donner le salut. Et demande-lui de te couvrir de sa sainteté. Fais-le. C'est toi qui dois le faire. C'est entre toi et lui que ça se passe. Fais-le. Demande à Jésus de te sauver. Donc, deux aspects pour bien comprendre la sainteté. Premièrement, la position. Ensuite, la condition. En 1 Jean 3:2, la parole de Dieu nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, en position, dans la pensée de Dieu, quand on est en Jésus-Christ, on est déjà des saints. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est l'équivalent d'être saint. Et Romains 6, 22 nous dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Wow! Si nous sommes saints, ce n'est pas parce qu'un personnage religieux l'a décrété, mais parce que Dieu nous fait saints en Jésus-Christ. Et c'est par la foi, en plaçant notre confiance en lui, qu'on y parvient. Donc, en position, nous sommes déjà des saints, dans la pensée de Dieu. Tout est réglé définitivement. Oui, mais comment ça se fait que je pêche encore? Tu as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de péché. Oui, mais ça, c'est notre condition. Alors, par anticipation, dans la pensée de Dieu, nous sommes déjà des saints. C'est déjà tout réglé. Mais en condition, pendant que nous sommes encore dans ce monde, dans ce corps de chair, on est dans un processus de sanctification continue. Alors oui, on l'est déjà dans la pensée de Dieu, mais en même temps, on est dans un processus de sanctification continue. Les deux vérités sont là. Elles cohabitent ensemble. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et encore 1 Corinthiens 15, 49 à 53, l'apôtre Paul écrit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Alors, même si par anticipation, dans la pensée de Dieu, nous sommes déjà semblables à Jésus, eh bien, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Alors, on a besoin de sanctification durant notre vie. Parce que nous sommes encore dans la chair, et nous vivons dans un monde corrompu par le péché. Et alors, qu'on le veuille ou non, on en subit les influences et les conséquences parfois. Notre monde est corrompu, voué même à être détruit. Merci Seigneur, parce qu'un jour, il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Mais en attendant, le péché règne dans ce monde. Et on est dans le monde. Donc, on en subit les influences. Donc, à chaque jour, nous péchons. Ce n'est pas une question de salut. De perte de salut, c'est une question de communion brisée avec le Christ. Alors, c'est pour ça qu'on doit confesser nos péchés. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. On a donc besoin de l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier, nous séparer du mal et nous rendre conformes à Jésus-Christ de plus en plus. Et tout ça se fait dans un processus de sanctification continue qui dure toute notre vie. Un théologien du nom de F.F. Bruce
a écrit ceci. La sanctification est la gloire commencée. La gloire est la sanctification accomplie. Et Charles Spurgeon, un éminent prédicateur du passé, a dit, « Les saints persévéreront dans la sainteté parce que Dieu persévère dans la grâce. » C'est-tu beau, hein? Vous savez, des fois, on a de la misère avec notre vie chrétienne, puis on peut se sentir mal, on peut se sentir coupable, on peut se sentir indigne. Puis on dit, « Seigneur, j'y arriverai pas. » Et là, le Seigneur pourrait nous répondre, « Oui, tu vas y arriver. Pas à cause de toi, à cause de moi. » Le Seigneur, c'est ça la persévérance des saints. C'est que la doctrine de la persévérance des saints, c'est qu'on va y arriver parce que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Et sans lui, on n'y arriverait pas. Imaginez, c'est comme l'image peut-être dans un cours de mathématiques. Moi, j'ai toujours détesté les maths. Je suis zéro pin-bar en maths. Ça ne marche pas. Dans ma tête, je n'ai pas la base des maths. Mais imaginez que on est dans une classe de mathématiques. Puis là, moi, je rush comme un bon. Ça va mal, j'ai de la misère. Puis la première journée du cours, là, ils nous donnent des feuilles. Puis c'est arrivé quand j'étais au cégep. Le prof, j'arrive au premier cours de mathématiques, il nous donne deux ou trois feuilles recto verso remplies de formules de différentielles. Il dit, il faut que vous appreniez ça par cœur pour le prochain cours. Je suis jamais retourné. Mais imaginez que le prof dit aux étudiants, écoutez, je sais que ce ne sera pas évident. C'est pas facile. Mais je vous promets une chose. C'est que tout le monde va passer son cours. À la fin, sur votre diplôme, vous allez avoir un A. Tout le monde, sans exception. Tout ce que je vous demande pendant les cours, c'est d'en profiter puis de faire de votre mieux puis me laisser vous enseigner. C'est une faible image de ce que Dieu fait pour nous, mais je pense que ça nous aide peut-être à comprendre que si les saints persévéreront dans la sainteté, c'est parce que Dieu persévère dans la grâce. Alors le Seigneur est là, il est avec nous. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est la sanctification. Mais la sanctification n'est pas facile à assumer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, c'est un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille de la vie chrétienne, nous avons trois ennemis qui sont particulièrement féroces. Premièrement, on a le diable. Le premier ennemi du chrétien, c'est le diable, qui connaît très, très bien la faiblesse humaine, puis qui sait comment nous tenter puis nous faire tomber. Puis là, quand je parle du diable, je veux préciser que je ne parle pas de lui personnellement. Je ne pense pas que le diable me connaît moi personnellement. Mais le diable a des millions d'anges déchus avec lui. Là. Il y a tout un réseau dans les lieux célestes. On ne sait pas comment ça marche, mais on sait que c'est là. Et puis, ils travaillent tous ensemble. Là. Donc, quand je parle du diable, je parle de toutes les forces démoniaques qui viennent avec. Là. Et eux, ils essaient de nous faire chuter, de nous faire tomber. Ils ne pourront jamais nous enlever notre salut parce qu'ils ne sont pas plus forts que Jésus. Mais ils vont essayer, par exemple, de nous priver de la joie de notre salut, de la communion qu'on a avec le Seigneur. Or, le diable est très fort, très puissant. Mais il n'est pas tout puissant ni omniprésent. Alors, il ne peut pas faire tout ça à lui tout seul, puis il n'est limité aussi que dans ce que Dieu lui permet de faire. Bref, le diable est un ennemi très coriace. Un autre de nos ennemis, c'est le monde. C'est-à-dire le système de ce monde dans lequel on vit, la société, les courants de pensée qui rejettent Dieu, qui rejettent tout ce qui vient de Dieu, puis qui mettent déjà dans le plus bas âge, dans la tête de nos enfants, toutes sortes d'idées absolument terribles. Le monde est un ennemi très, très influent. On a aussi la chair, notre propre nature humaine, avec tous ses désirs tordus. Les désirs tordus qu'on doit combattre constamment parce que la chair s'oppose à Dieu. En Galates 5, 17, il est écrit, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. » Alors notre chair, là, nos propres désirs personnels, notre cœur tortueux, il veut s'opposer aux choses de Dieu. Il veut s'opposer à l'esprit. Mais merci Seigneur, parce que dans la grâce de Dieu, il nous donne tout ce qu'on a besoin. Pierre va écrire dans son épître, dans sa deuxième épître, que l'Esprit contribue à nous donner tout ce que nous avons besoin. pour la vie et la piété, c'est-à-dire une bonne marche avec le Seigneur. On n'est pas tout seul dans le combat. Le combat est dur. Mais savez-vous quoi? La victoire nous est déjà acquise. Imaginez qu'on traverse la vie chrétienne comme un champ de bataille et qu'on voit à l'autre bout du champ le Seigneur avec un drapeau. Venez-vous-en, j'ai déjà vaincu le monde. La victoire vous appartient. Venez-vous-en, venez-vous-en, vous allez y arriver. Et là, ben, on persévère. On persévère, un pas après l'autre, en sachant qu'on va y arriver, parce que Dieu persévère dans la grâce pour nous. Mais il nous appelle aussi à laisser le Saint-Esprit produire les effets de l'Esprit en nous. On doit rechercher la sanctification. Beaucoup trop de gens, beaucoup trop de chrétiens aujourd'hui nivellent la sanctification vers le bas plutôt que vers le haut, en faisant des compromis. « Ah, ben c'est pas si grave que ça. Ah, ben lui, il le fait, mais moi, je peux le faire, moi, avec. » N'ayons pas les regards sur le monde. Oui, c'est bon d'avoir des modèles dans la foi. C'est très bon d'avoir des modèles, des exemples de foi. Mais notre premier exemple, notre premier modèle devrait toujours être Jésus. Et quand on doute, ou quand on n'est pas sûr, ou quand il y a quelque chose, c'est à Jésus qu'il faut regarder. Le psaume 34 nous dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. » Poursuivons la sanctification vers le haut, en tendant toujours à ce qui est meilleur, en laissant le Saint-Esprit qui est en nous agir dans nos vies, travailler par la grâce de Dieu pour nous amener de plus en plus à l'image de Christ, parce que ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. À cause de nos ennemis, le monde, la chair et le diable, la sanctification est difficile, mais souvenons-nous de cette citation de Spurgeon. Les saints persévéreront dans la sainteté, parce que Dieu persévère dans la grâce. Dieu veut aussi notre soumission à Dieu, premièrement, en Colossiens 4:12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors, il priait pour que les croyants qu'il connaissait persévèrent dans une entière soumission à la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'on soit soumis. À lui, premièrement. Parce qu'il veut être le Seigneur de nos vies. Mais Dieu veut aussi que l'on soit soumis aux autorités humaines que lui-même a mises en place. Tournez dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2. C'est souvent confondé, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois obéir à Dieu ou est-ce que je dois obéir aux hommes? Qu'est-ce que je fais? Comment je deal avec ça? Bien, premièrement, la parole de Dieu nous dit d'être soumis au Seigneur. Et deuxièmement, voyons ce que Pierre nous dit. Donc, 1 Pierre 2, les versets 13 à 16. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Alors, la volonté de Dieu pour nous, c'est que l'on soit soumis à lui, premièrement, et ensuite aux autorités humaines. Mais pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être soumis aux autorités humaines? Eh bien, au verset 12, juste avant, dans 1 Pierre, la raison nous est donnée. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alors, la volonté de Dieu, c'est que l'on soit soumis à Dieu et aux hommes pour la gloire de Dieu. Le premier message de la Syrie, on a vu ça, hein? La volonté de Dieu, c'est que l'on vive pour sa gloire. Et ça, ça implique plein d'aspects de notre vie chrétienne. La soumission en est une. Quand on est soumis à Dieu, eh bien, Dieu se sert souvent de notre soumission. Bien, il s'en sert pour toutes sortes de choses, mais l'une de ces raisons-là, c'est qu'il s'en sert pour le témoignage chrétien. Bref, notre soumission aux autorités ne doit jamais aller cependant à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, si les autorités nous exigent de faire quelque chose, mais que clairement on sait que c'est contre la volonté de Dieu, eh bien, c'est la volonté de Dieu qui doit primer. On est soumis d'abord à Dieu. Et si ce que l'autorité humaine nous demande n'est pas contraire à Dieu, n'offense pas Dieu, on doit obéir, mais dans le cas contraire, on doit refuser et rester soumis. Notre première allégeance, c'est au Seigneur qu'elle doit aller. Alors, on obéit aux hommes tant et aussi longtemps que ça ne contrevient pas à la parole de Dieu. Mais être soumis, c'est quelque chose de difficile parce que on aime ça être indépendant, autonome, au plein contrôle de nos affaires, n'est-ce pas? Mais souvenons-nous que l'exemple suprême de soumission à la volonté de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Eh oui. Toute sa vie, le Seigneur a été parfaitement soumis à la volonté de Dieu. Dans le premier message, on a vu dans Jean 4, 34, que le Seigneur avait dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus était soumis au Père et il nous appelle à l'être aussi. Alors la soumission, ça fait partie de la volonté générale de Dieu pour nous. Mais on peut refuser d'être soumis parce que notre orgueil est fort parfois. Ou parce qu'on a un sentiment d'injustice. Alors, je ne vais pas accepter ça, moi-là, parce que ça, c'est trop injuste. Ça peut être ça. Ou parce qu'on a peur. Ou parce qu'on doute. Ou bien d'autres raisons encore. Mais soyons conscients que la soumission à Dieu vaut mieux que la soumission à n'importe qui ou à n'importe quoi d'autre. Parce que la volonté de Dieu ne nous amènera jamais là où sa grâce ne nous protège pas. La volonté de Dieu ne nous amènera jamais là où sa grâce ne nous protège pas. Alors, vous savez, on ne comprend pas toujours pourquoi. Il faut être soumis. Combien de chrétiens ont été emprisonnés, ont été mis à mort? Combien de chrétiens ont souffert injustement? Mais ils ont accepté, parce que c'était la volonté de Dieu pour eux. Évidemment, on ne comprend pas toujours. Et Dieu peut même nous sembler, même à nos propres yeux, peut sembler injuste, parfois, de nous demander certaines choses. Mais si on ne comprend pas toujours maintenant, sachons qu'un jour dans l'éternité, peut-être que Dieu nous le révélera. Mais quoi qu'il en soit, la volonté de Dieu pour nous, c'est d'être soumis. Et Dieu sait ce qu'il fait. Tournez maintenant dans 1 Pierre 4. On va voir que la volonté de Dieu pour nous, c'est qu'on accepte de souffrir parfois. 1 Pierre 4, 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Alors parfois, on souffre selon la volonté de Dieu. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Même si on ne comprend pas, Dieu nous demande de lui faire confiance. Ça, c'est difficile. La souffrance et les épreuves font partie de la vie, vous savez. Et ça fait partie de la volonté de Dieu pour nous parce que Dieu s'en sert pour notre croissance spirituelle, pour le témoignage et pour l'accomplissement de son plan et pour sa gloire et pour plein de raisons. Alors, la volonté de Dieu pour nous, c'est que l'on souffre parfois. Tournez en Actes 21 maintenant. Le livre des Actes, chapitre 21. Il y a un homme ici du nom d'Agabus, un prophète. Le prophète Agabus avait prédit, lui, les souffrances et les emprisonnements qui attendaient l'apôtre Paul s'il allait à Jérusalem. Alors, les chrétiens de Césarée ont tenté d'empêcher Paul d'y aller parce qu'il l'aimait et il ne voulait pas que tout ça arrive. Mais Paul va leur dire, au verset 13 et 14, acte 21, 13, 14, « Je suis prêt. Essayez pas de m'empêcher d'y aller. Je vais y aller pareil. Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne le laissait pas, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Or, Dieu veut parfois que l'on souffre pour lui. Et ce n'est pas parce que c'est un bourreau. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de méchant. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis un jour, nous serons récompensés de notre obéissance. Puis vous savez, quand on obéit au Seigneur, là, même dans la souffrance, même si on ne comprend pas ce qui se passe, mais qu'on obéit quand même, c'est une grande marque d'adoration. Parce que notre soumission, notre acceptation, malgré qu'on ne comprend rien, malgré qu'on peut peut-être trouver ça injuste, notre soumission, c'est de l'adoration à Dieu, parce qu'à quelque part, ça lui manifeste que, Seigneur, je ne comprends pas, je trouve ça injuste, je ne voudrais pas ce qui m'arrive, mais je te fais assez confiance pour t'obéir et d'être soumis. Alors, c'est de l'adoration. Si on est appelé à souffrir pour le Seigneur, eh bien, remettons notre âme à celui qui saura nous consoler, puis nous guider, puis nous garder. Même si on ne comprend pas toujours, Dieu a un plan, puis ce plan-là, ben, c'est de nous transformer de plus en plus à l'image de Christ. En Romains 8, il est écrit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il y a plusieurs années, une chrétienne qui était aux prises avec deux cancers m'a demandé d'aller la voir. Et là, je parle avec elle, elle pleurait. Elle dit, « J'en ai plus pour longtemps. » Elle dit, « J'ai une question. En quoi mes cancers concourent à mon bien parce que je vais mourir? » C'est une bonne question. Vous savez, on n'a pas toujours les réponses. Je ne l'avais pas dans ce cas-là. Je n'ai pas su quoi lui répondre, honnêtement. Mais il me semble que ces versets-là ne disent pas que toute chose concourt à notre bien personnel, mais au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire dans une vue d'ensemble beaucoup plus large. Au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Alors, Dieu utilise parfois ce qui nous arrive pour agir dans la vie de quelqu'un d'autre. On n'est pas toujours conscient de ce qui se passe, mais Dieu nous utilise nos souffrances, nos détresses, nos épreuves, parfois pour faire du bien à d'autres. Pensez à Job. Job, là, il ne comprenait pas ce qui se passait. Dans la même journée, il a perdu son argent, sa santé et tous ses enfants. Dans la même journée. Quelle journée épouvantable. Mais bien qu'il ne savait pas ce qui se passait, Job a toujours continué à faire confiance à Dieu. Et l'histoire de Job, pendant les 4000 ans qui ont suivi, parce que ça fait environ 4000 ans que c'est arrivé, pendant les 4000 ans qui ont suivi, l'histoire de Job a servi à édifier des millions de croyants à travers le monde et à les aider à comprendre des aspects de la souffrance. Est-ce que Job pouvait même imaginer ça? Pas du tout. Mais Dieu, lui, savait ce qu'il faisait. Dieu est au contrôle. John Piper a écrit, « Ne gaspille pas tes souffrances. Dieu les utilise pour te mettre à genoux. » Et parfois, c'est le cas. Dieu utilise nos souffrances pour nous mettre à genoux, pour nous apprendre la dépendance de Dieu, pour briser notre caractère ou pour n'importe quelle raison. Mais dans tous les cas, on doit, comme nous dit 1 Pierre 4,19, s'en remettre au fidèle Créateur. Parce que si on n'accepte pas la soumission et la souffrance, qui est la volonté de Dieu pour nous, eh bien, nos souffrances, nos épreuves vont avoir été inutiles. On va avoir souffert en vain. Tandis que si on passe au travers de nos souffrances en s'accrochant au Seigneur, en dépendant de lui, en lui faisant confiance malgré tout, eh bien, ça va avoir servi à quelque chose. Puis personne d'entre nous, je pense que je peux parler pour tout le monde, là, personne d'entre nous ne veut souffrir inutilement. On ne comprend peut-être pas toujours le but de la souffrance que Dieu nous envoie. Mais si on s'en remet au fidèle Créateur, eh bien, la souffrance va servir à quelque chose. Peut-être pour nous-mêmes, peut-être pour les autres, Peut-être pour les deux, on ne sait pas tout le temps, mais Dieu sait ce qu'il fait. Alors, on peut espérer en quelque chose de glorieux dans l'éternité, où un jour, ces choses nous seront peut-être révélées. Notre Dieu, c'est celui de toute consolation. Alors, recherchons premièrement auprès de lui la consolation dont nous avons besoin. Puis ensuite, gaspillons pas nos souffrances. Cherchons à trouver en Dieu ce qu'il veut nous apprendre à travers nos souffrances. Et soyons conscients que une belle façon de ne pas gaspiller nos souffrances, c'est de les mettre à profit pour quelqu'un d'autre. En 2 Corinthiens 1, on peut lire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Alors, Dieu nous console dans nos afflictions. C'est pour ça qu'il faut remettre notre âme au fidèle Créateur quand on souffre. Et soyons conscients que Dieu peut utiliser ce que l'on vit pour qu'on fasse du bien à quelqu'un d'autre. Qui est mieux placé pour aider quelqu'un qui vit par une épreuve que celui qui a passé par cette même épreuve? Dieu contrôle tout ça. Alors, dans un plan plus large, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le verbe concourir, on dit toute chose concourt. Concourir, ça veut dire travailler ensemble dans un but précis. Alors, toute chose travaille ensemble dans un but bien précis qui est un plan de Dieu, qui est dans le plan de Dieu de faire du bien à ses élus. Et si Dieu veut que sa volonté, ce soit qu'on souffre pour lui, ben c'est pas parce qu'il nous veut du mal, mais parce qu'il a un plan glorieux. Alors, faisons-lui confiance. On termine ici l'aspect de la volonté générale de Dieu pour passer au dernier point. Donc, on a vu que la volonté générale de Dieu, qui est la même pour tous, c'est premièrement que l'on vive pour sa gloire. Deuxièmement, que l'on soit sauvé. Troisièmement, c'est être rempli de l'Esprit. Quatrièmement, c'est qu'on poursuive notre sanctification. Cinquièmement, c'est que l'on soit soumis. Et sixièmement, c'est qu'on accepte de souffrir. Vous cherchez la volonté de Dieu pour votre vie? C'est là qu'il faut commencer. C'est la volonté générale de Dieu pour tout le monde. C'est la première chose. Et ensuite, le dernier point, parce que je vous avais parlé que la volonté de Dieu comporte deux aspects. Donc, sa volonté générale, qui est la même pour tous, et sa volonté individuelle, qui, elle, est différente pour chacun. Mais si la volonté générale de Dieu, ces points-là, sont présents dans votre vie, voici quelle est la volonté individuelle pour vous. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Parce que si ces six aspects-là sont présents dans votre vie, eh bien, c'est clair que c'est Dieu qui dirige déjà vos désirs. Les désirs qui sont sur vos cœurs viennent de lui parce que vous êtes pleinement dans sa volonté. Alors, faites ce que vous voulez. Parce que vous ne voudrez même pas faire quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu ou qui va offenser Dieu. Vous êtes déjà dans sa volonté générale. Le psaume nous dit, psaume 37, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et là, attention, Dieu ne dit pas qu'il va assouvir tous nos désirs égoïstes. Ce n'est pas un évangile de prospérité. On en a parlé dans les messages passés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si on reste attaché à la volonté générale de Dieu, de façon à vivre pour la gloire de Dieu, bien, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut parce que le restant ne devient qu'une question de préférence. Et je crois que le point de départ pour trouver la volonté spécifique ou individuelle de Dieu pour nous, bien, ce sont déjà les désirs qui sont sur nos cœurs. Parce que très souvent, nos désirs, c'est Dieu qui les place là. Ça vient de lui. Le psaume 84 nous dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Donc, à partir des désirs qu'il y a sur nos cœurs, selon la volonté générale de Dieu, pour vous aider maintenant à trouver de façon plus spécifique quelle est la volonté de Dieu pour vous, recherchez la paix intérieure. La paix que vous avez face à une décision que vous voulez prendre ou devant un choix difficile, c'est quoi, qu'est-ce qui est devant vous qui va vous procurer le plus de paix? Moi, je dirais, commencez par là pour trouver la volonté individuelle, spécifique de Dieu. Il y a souvent deux, trois affaires, quatre affaires, mais il y en a une qu'on est plus en paix que les autres. Bien, je pense que c'est par là qu'on devrait commencer. Parce que Dieu met dans nos cœurs des chemins tout tracés. Donc, la paix intérieure, c'est quelque chose de très révélateur concernant la volonté de Dieu spécifique pour nous. Ensuite, il y a les portes et les circonstances. Il faut rechercher la direction du Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de nous parler par les circonstances. Essayez de voir les clins d'œil que Dieu vous fait dans votre vie. Dieu agit à travers les événements dans sa providence. Essayez de voir ça, mais essayez de mettre la main là-dessus. Et mettez-vous en marche. Attendez pas que ça se passe. Comme le gars qui dit, j'avais demandé à quelqu'un, tu travailles pas? Oh, ouais, je me cherche un job, là, mais il dit, j'attends, là, la volonté de Dieu, s'il veut que je travaille, il va m'envoyer quelqu'un me donner un job. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais faut se mettre en marche. Faut se mettre en marche. Donc, Dieu va nous diriger, il va ouvrir des portes, il va en fermer d'autres, mais il va nous diriger dans ça. En Acte 16, par exemple, l'apôtre Paul voulait se rendre en Asie mineure pour encourager les frères des églises. C'est des églises à l'ouest de l'Asie mineure, donc les églises qu'on voit dans l'Apocalypse. Là. Paul avait comme but de s'en aller là pour encourager les frères, mais en cours de route, le Saint-Esprit l'a fait changer de direction deux fois. Et finalement, il s'est ramassé en Macédoine, donc en Europe du Sud, où l'a implanté Philippe, Thessalonique et d'autres églises dans ce coin-là. Donc, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Recherchons les portes. Seigneur, ouvre des portes devant moi. Faites-en d'autres. Puis, mettez-vous en marche. Des fois, moi, je dis, Seigneur, OK, moi, je m'en vais là, je vais faire ça. Puis, si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, je m'attends à toi, ferme la porte. Puis, des fois, ça arrive. Puis, des fois, la porte reste ouverte. Alors, je continue, un pas à la fois. Donc, recherchez la paix intérieure. Recherchez comment est-ce que Dieu va vous conduire. Je pense au serviteur d'Abraham en Genèse 24. Il est parti pour aller chercher une épouse à Isaac dans un autre pays. Mais il s'est mis en marche, sans trop savoir comment ça se terminerait. Puis finalement, en Genèse 24, 27, il dit, « L'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Il s'est mis en marche. Puis le Seigneur l'a conduit là où il devait rencontrer Rebecca, qui deviendrait l'épouse d'Isaac. Ensuite, les personnes. Cherchez les personnes clés dans votre vie autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Pour trouver la volonté individuelle de Dieu pour vous. Vos pasteurs ou des chrétiens matures en qui vous avez confiance, des partenaires de prière. Trouvez-vous des personnes qui vont vous aider. Le Proverbe 15, 22 nous dit, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » La volonté spécifique pour nous, Dieu utilise les gens autour de nous pour nous la révéler. Et évidemment, bien, la prière. Parce que tout le processus de la recherche de la volonté de Dieu doit se faire dans la prière, sous la direction du Saint-Esprit. Dans le psaume 143, 10, la parole de Dieu nous dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Il faut s'attendre à Dieu. Alors, la prière est essentielle durant tout le processus. Et le dernier point de ça, c'est la patience. Vous savez, quand on demande quelque chose à Dieu, il répond de trois façons. Il répond oui, ou il répond non, ou il répond attends. Oui et non, ça peut aller. On sait à quoi s'en tenir. Mais attends, ça, c'est difficile. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En Ecclésiaste 3:11. Alors, profitons de ce temps d'attente pour chercher la volonté de Dieu dans les points qu'on a vus. Alors, petit aide de mémoire pour aider à trouver la volonté de Dieu. Premièrement, c'est la parole. C'est toute d'épée. Premièrement, c'est la parole. La parole, c'est sa volonté générale. Pour trouver la volonté de Dieu pour nous, on doit être conforme à la volonté de Dieu, sa volonté générale qui est révélée dans sa parole. Ensuite, la paix. Ça, le restant, c'est la volonté individuelle. La paix vient des désirs du cœur qui sont compatibles avec la pensée de Dieu. Les portes ouvertes, les portes fermées qui sont devant nous. Les circonstances évidentes par lesquelles Dieu nous parle ou nous dirige. Les personnes, la prière et la patience. Parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Puis, n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, la volonté de Dieu pour nous, c'est de remercier le Seigneur. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remerciez le Seigneur pour la personne merveilleuse qu'il est. Remerciez le Seigneur pour le salut qu'il vous a accordé. Remerciez le Seigneur pour qui vous êtes en lui, notre identité en Christ. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Pour les épreuves aussi qui contribuent à notre sanctification. Remerciez le Seigneur pour la gloire qui nous attend avec lui. Remerciez le Seigneur pour sa direction dans la recherche de sa volonté et pour toutes choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Puisse le Seigneur vous diriger dans la recherche de sa volonté. Prions. Seigneur grand Dieu, merci parce que ta volonté n'est pas toujours évidente pour nous, mais c'est possible de la trouver. Révèle-nous, Seigneur Jésus, ta volonté générale. Donne-nous de bien, elle nous est déjà révélée dans ta parole, mais donne-nous de bien l'assimiler, de bien l'appliquer dans chacune de nos vies. Et ensuite, pour ta volonté individuelle, bien, Seigneur, on veut s'attendre à toi. Donne-nous, Seigneur, de s'accorder premièrement avec ta volonté générale et ensuite de rechercher ta volonté individuelle en se laissant diriger par toi en toutes choses. Et on veut te remercier pour qui tu es, pour qui nous sommes en toi. Et parce que un jour aussi, on va être dans la gloire à tes côtés pour l'éternité. Et ça aussi, c'est ta volonté pour nous. Puis on est qui, nous, Seigneur, pour mériter ça? Sois béni, sois adoré pour les siècles des siècles. Amen.